Chapitre 10. L'île, à laquelle on avait d'abord donné le nom de Nouvelle-Cythère, reçoit de ses habitants celui de Tahiti. Sa latitude de 17 degrés 35 minutes 3 secondes à notre camp a été conclue de plusieurs hauteurs méridiennes du soleil observées à terre avec un quart de cercle. Sa longitude de 150 degrés 40 minutes 17 secondes à l'ouest de Paris a été déterminée par 11 observations de la Lune selon la méthode des angles horaires. Monsieur Véron en avait fait beaucoup d'autres à terre pendant 4 jours et 4 nuits pour déterminer cette même longitude, mais le cahier où elles étaient écrites lui ayant été enlevé, il ne lui est resté que les dernières observations faites la veille de notre départ. Il croit leurs résultats moyens assez exacts, quoique leurs extrêmes diffèrent entre eux de 7 à 8 degrés. La perte de nos ancres et tous les accidents que j'ai détaillés ci-dessus nous ont fait abandonner cette relâche beaucoup plus tôt que nous ne nous y étions attendus, et nous ont mis dans l'impossibilité d'en visiter les côtes. La partie du sud nous est absolument inconnue. Celle que nous avons parcourue depuis la pointe du sud-est jusqu'à celle du nord-ouest me paraît avoir 15 à 20 lieues d'étendue, et le gisement de ses principales pointes est entre le nord-ouest et l'ouest-nord-ouest. Entre la pointe du sud-est et un gros cap qui s'avance dans le nord à 7 ou 8 lieues de celle-ci, on voit une baie ouverte au nord-est, laquelle a 3 ou 4 lieues de profondeur. Ses côtes s'abaissent insensiblement jusqu'au fond de la baie où elles ont peu d'élévation et paraissent former le canton le plus beau de l'île et le plus habité. Il semble qu'on trouverait aisément plusieurs bons mouillages dans cette baie. Le hasard nous servit mal dans la rencontre d'une autre, en entrant ici par la passe par laquelle est sortie l'étoile. Monsieur de la Giraudet m'a assuré qu'entre les deux îles les plus septentrionales, il y avait un mouillage fort sûr pour 30 vaisseaux au moins, depuis 23 jusqu'à 12 et 10 brasses, fond de sable gris vaseux, qu'il y avait 1 lieue d'évitage et jamais de mer. Le reste de la côte est élevé, et elle semble en général être toute bordée par un récif inégalement couvert d'eau, et qui forme en quelques endroits de petits îlots sur lesquels les insulaires entretiennent des feux pendant la nuit pour la pêche et la sûreté de leur navigation. Quelques coupures donnent de distance en distance l'entrée en dedans du récif, mais il faut se méfier du fond. Le plomb n'amène jamais que du sable gris. Ce sable recouvre de grosses masses d'un corail dur et tranchant, capable de couper un câble dans une nuit, ainsi que nous l'a appris une funeste expérience. Au-delà de la pointe septentrionale de cette baie, la côte ne forme aucune anse, aucun cap remarquable. La pointe la plus occidentale est terminée par une terre basse, dans le nord-ouest de laquelle, environ à 1 lieue de distance, on voit une île peu élevée qui s'étend 2 ou 3 lieues sur le nord-ouest. La hauteur des montagnes qui occupent tout l'intérieur de Tahiti est surprenante, eut égard à l'étendue de l'île. Loin d'en rendre l'aspect triste et sauvage, elles servent à l'embellir en variant à chaque pas les points de vue et présentant de riches paysages couverts des plus riches productions de la nature avec ce désordre dont l'art ne sut jamais imiter l'agrément. De là sortent une infinité de petites rivières qui fertilisent le pays et ne servent pas moins à la commodité des habitants qu'à l'ornement des campagnes. Tout le plat pays, depuis les bords de la mer jusqu'aux montagnes, est consacré aux arbres fruitiers, sous lesquels, comme je l'ai déjà dit, sont bâties les maisons des Tahitiens, dispersées sans aucun ordre et sans former jamais de village. On croit être dans les Champs-Élysées. Des sentiers publics, pratiqués avec intelligence et soigneusement entretenus, rendent partout les communications faciles. Les principales productions de l'île sont le coco, la banane, le fruit à pain, l'igname, le curassol, le giromont et plusieurs autres racines et fruits particuliers au pays, beaucoup de canne à sucre qu'on ne cultive point, une espèce d'indigo sauvage, une très belle teinture rouge et une jaune, j'ignore d'où on les tire. En général, monsieur de Commerçon y a trouvé la botanique des Indes. Aotourou, pendant qu'il a été avec nous, a reconnu et nommé plusieurs de nos fruits et de nos légumes, ainsi qu'un assez grand nombre de plantes que les curieux cultivent dans les serres chaudes. Le bois propre à travailler croît dans les montagnes, et les insulaires en font peu d'usage. Ils ne l'emploient que pour leurs grandes pirogues, qu'ils construisent de bois de cèdre. Nous leur avons aussi vu des pics d'un bois noir, dur et pesant, qui ressemble au bois de fer. Ils se servent pour bâtir les pirogues ordinaires de l'arbre qui porte le fruit à pain. C'est un bois qui ne se fend point, mais il est si molle et si plein de gomme qu'il ne fait que se mâcher sous l'outil. Au reste, quoique cette île soit remplie de très hautes montagnes, la quantité d'arbres et de plantes dont elles sont partout couvertes ne semble pas annoncer que leur sein renferme des mines. Il est du moins certain que les insulaires ne connaissent point les métaux. Ils donnent à tous ceux que nous leur avons montrés le même nom d'Aouri, dont ils se servaient pour nous demander du fer. Mais cette connaissance du fer, d'où leur vient-elle? Je dirai bientôt ce que je pense à cet égard. Je ne connais ici qu'un seul article de commerce riche. ce sont de très belles perles. Les principaux en font porter aux oreilles à leurs femmes et à leurs enfants, mais ils les ont tenues cachées pendant notre séjour chez eux. Ils font, avec les écailles de ces huîtres perlières, des espèces de castagnettes qui sont un de leurs instruments de base. Nous n'avons vu d'autres quadrupèdes que des cochons, des chiens d'une espèce petite mais jolie, et des rats en grande quantité. Les habitants ont des poules domestiques absolument semblables aux nôtres. Nous avons aussi vu des tourterelles vertes charmantes, de gros pigeons d'un beau plumage bleu de roi et d'un très bon goût, et des perruches fort petites, mais fort singulières par le mélange de bleu et de rouge qui colorie leurs plumes. Ils ne nourrissent leurs cochons et leurs volailles qu'avec des bananes. Entre ce qui en a été consommé dans le séjour à terre et ce qui a été embarqué dans les deux navires, on a troqué plus de 800 têtes de volailles et près de 150 cochons. Encore, sans les travaux inquiétants des dernières journées, en aurait-on eu beaucoup davantage, car les habitants en apportaient de jour en plus grand nombre. Nous n'avons pas éprouvé de grande chaleur dans cette île. Pendant notre séjour, le thermomètre de Réaumur n'a jamais monté à plus de 22 degrés, et il a été quelquefois à 18 degrés. Le soleil, il est vrai, était déjà à 8 ou 9 degrés de l'autre côté de l'équateur. Mais un avantage inestimable de cette île, c'est de n'y être pas infesté de cette légion odieuse d'insectes qui font le supplice des pays situés entre les tropiques. Nous n'y avons vu non plus aucun animal venimeux. D'ailleurs, le climat est si sain que malgré les travaux forcés que nous y avons faits, quoique nos gens fussent continuellement dans l'eau et au grand soleil, qu'ils couchassent sur le sol nus et à la belle étoile, personne n'y est tombé malade. Les scorbutiques que nous y avions débarqués et qui n'y ont pas eu une seule nuit tranquille y ont repris des forces et s'y sont rétablis en aussi peu de temps, au point que quelques-uns ont été parfaitement guéris à bord. Au reste, la santé et la force des insulaires qui habitent des maisons ouvertes à tous les vents et couvrent à peine de quelques feuillages la terre qui leur sert de lit, l'heureuse vieillesse à laquelle ils parviennent sans aucune incommodité, la finesse de tous leurs sens et la beauté singulière de leurs dents qu'ils conservent dans le plus grand âge, quelle meilleure preuve est de la salubrité de l'air et de la bonté du régime que suivent les habitants. Les végétaux et les poissons sont leur principale nourriture. Ils mangent rarement de la viande. Les enfants et les jeunes filles n'en mangent jamais, et ce régime sans doute contribue beaucoup à les tenir exempts de presque toutes nos maladies. J'en dirais autant de leurs boissons. Ils n'en connaissent d'autres que l'eau. L'odeur seule du vin et de l'eau de vie leur donnait de la répugnance. Ils en témoignaient aussi pour le tabac, les épiceries, et en général pour toutes les choses fortes. Le peuple de Tahiti est composé de deux races d'hommes très différentes, qui cependant ont la même langue, les mêmes mœurs et qui paraissent se mêler ensemble sans distinction. La première, et c'est la plus nombreuse, produit des hommes de la plus grande taille. Il est d'ordinaire d'en voir de 6 pieds et plus. Je n'ai jamais rencontré d'homme mieux fait ni mieux proportionné. Pour peindre Hercule et Mars, on ne trouverait nulle part d'aussi beau modèle. Rien ne distingue leurs traits de ceux des Européens, et s'ils s'étaient vêtus, s'ils vivaient moins à l'air et au grand soleil, ils seraient aussi blancs que nous. En général, leurs cheveux sont noirs. La seconde race est d'une taille médiocre, a les cheveux crépus et durs comme du crin, sa couleur et ses traits diffèrent peu de ceux des mulâtres. Le Tahitien qui s'est embarqué avec nous est de cette seconde race, quoique son père soit chef d'un canton, mais il possède en intelligence ce qui lui manque du côté de la beauté. Les uns et les autres se laissent croître la partie inférieure de la barbe, mais ils ont tous les moustaches et le haut des joues rasés. Ils laissent aussi toute leur longueur aux ongles, excepté à celui du doigt du milieu de la main droite. Quelques-uns se coupent les cheveux très courts, d'autres les laissent croître et les portent attachés sur le sommet de la tête. Tous ont l'habitude de se les joindre, ainsi que la barbe, avec de l'huile de coco. Je n'ai rencontré qu'un seul homme estropié, et qui paraissait l'avoir été par une chute. Notre chirurgien-major m'a assuré qu'il avait vu sur plusieurs les traces de la petite vérole, et j'avais pris toutes les mesures possibles pour que nous ne leur communiquassions pas l'autre, ne pouvant supposer qu'ils en fussent attaqués. On voit souvent les Tahitiens nus, sans autre vêtement qu'une ceinture qui leur couvre les parties naturelles. Cependant, les principaux s'enveloppent ordinairement dans une grande pièce d'étoffe qu'ils laissent tomber jusqu'aux genoux. C'est aussi là le seul habillement des femmes, et elles savent l'arranger avec assez d'art pour rendre ce simple ajustement susceptible de coquetterie. Comme les Tahitiennes ne vont jamais au soleil sans être couvertes, et qu'un petit chapeau de canne garni de fleurs défend leur visage de ses rayons, elles sont beaucoup plus blanches que les hommes. Elles ont les traits assez délicats, mais ce qui les distingue, c'est la beauté de leur corps, dont les contours n'ont point été défigurés par 15 ans de torture. Au reste, tandis qu'en Europe les femmes se peignent en rouge les joues, celles de Tahiti se peignent d'un bleu foncé les reins et les fesses. C'est une parure et en même temps une marque de distinction. Les hommes sont soumis à la même mode. Je ne sais comment ils s'impriment ces traits ineffaçables. Je pense que c'est en piquant la peau et en y versant le suc de certaines herbes, ainsi que je l'ai vu pratiquer aux indigènes du Canada. Il est à remarquer que de tout temps on a trouvé cette peinture à la mode chez les peuples voisins encore de l'état de nature. Quand César fit sa première descente en Angleterre, il y trouva établi cet usage de se peindre. Le savant et ingénieux auteur des recherches philosophiques sur les Américains donne pour cause à cet usage général le besoin où on est, dans les pays incultes, de se garantir ainsi de la piqûre des insectes caustiques qui s'y multiplient au-delà de l'imagination. Cette cause n'existe point à Tahiti, puisque, comme nous l'avons dit plus haut, on y est exempt de ces insectes insupportables. L'usage de se peindre y est donc une mode, comme à Paris. Un autre usage de Tahiti, commun aux hommes et aux femmes, c'est de se percer les oreilles et d'y porter des perles ou des fleurs de toute espèce. La plus grande propreté embellit encore ce peuple aimable. Ils se baignent sans cesse, et jamais ils ne mangent ni ne boivent sans se laver avant et après. Le caractère de la nation nous a paru être doux et bienfaisant. Il ne semble pas qu'il y ait dans l'île aucune guerre civile, aucune haine particulière, quoique le pays soit divisé en petits cantons qui ont chacun leur seigneur indépendant. Il est probable que les Tahitiens pratiquent entre eux une bonne foi dont ils ne doutent point. Qu'ils soient chez eux ou non, jour ou nuit, les maisons sont ouvertes. Chacun cueille les fruits sur le premier arbre qu'il rencontre, en prend dans la maison où il entre. Il paraîtrait que pour les choses absolument nécessaires à la vie, il n'y a point de propriété et que tout est à tous. Avec nous, ils étaient filous, habiles, mais d'une timidité qui les faisait fuir à la moindre menace. Au reste, on a vu que les chefs n'approuvaient point ces vols, qu'ils nous pressaient au contraire de tuer ceux qui les commettaient, et Réti cependant n'usait point de cette sévérité qu'ils nous recommandaient. Lui dénoncions-nous quelques voleurs ? Il le poursuivait lui-même à toutes jambes, l'homme fuyait, et s'il était joint, ce qui arrivait ordinairement, car Réti était infatigable à la course, quelques coups de bâton et une restitution forcée étaient le seul châtiment du coupable. Je ne croyais pas même qu'ils connussent de punitions plus fortes, attendu que quand ils voyaient mettre quelqu'un de nos gens au fer, ils en témoignaient une peine sensible. Mais j'ai su depuis, à n'en pas douter, qu'ils ont l'usage de pendre les voleurs à des arbres, ainsi qu'on le pratique dans nos armées. Ils sont presque toujours en guerre avec les habitants des îles voisines. Nous avons vu les grandes pirogues qui leur servent pour les descentes et même pour des combats de mer. Ils ont pour armes l'arc, la fronde et une espèce de pic d'un bois fort dur. La guerre se fait chez eux d'une manière cruelle. Suivant ce que nous a appris à Aotourou, ils tuent les hommes et les enfants mâles pris dans les combats. Ils leur lèvent la peau du menton avec la barbe qu'ils portent comme un trophée de victoire. Ils conservent seulement les femmes et les filles que les vainqueurs ne dédaignent pas d'admettre dans leur lit. Aotourou lui-même est le fils d'un chef tahitien et d'une captive de l'île de Ho'opoa, île voisine et souvent ennemie de Tahiti. J'attribue à ce mélange la différence que nous avons remarquée dans l'espèce des hommes. J'ignore, au reste, comme ils pensent leurs blessures. Nos chirurgiens en ont admiré les cicatrices. J'exposerai à la fin de ce chapitre ce que j'ai pu entrevoir sur la forme de leur gouvernement, sur l'étendue du pouvoir qu'ont leurs petits souverains, sur l'espèce de distinction qui existe entre les principaux et le peuple, sur le lien, enfin, qui réunit ensemble et sous la même autorité cette multitude d'hommes robustes qui ont si peu de besoins. Je remarquerai seulement ici que dans les circonstances délicates, le seigneur du canton ne décide point sans l'avis d'un conseil. On a vu qu'il avait fallu une délibération des principaux de la nation lorsqu'il s'était agi de l'établissement de notre camp à terre. J'ajouterai que le chef paraît être obéi sans réplique par tout le monde, et que les notables ont aussi des gens qui les servent et sur lesquels ils ont de l'autorité. Il est fort difficile de donner des éclaircissements sur leur religion. Nous avons vu chez eux des statues de bois que nous avons prises pour des idoles, mais quel culte leur rendent-ils ? La seule cérémonie religieuse dont nous ayons été témoins regarde les morts. Ils en conservent longtemps les cadavres étendus sur une espèce d'échafaud que couvre un hangar. L'infection qu'ils répandent n'empêche pas les femmes d'aller pleurer auprès du corps une partie du jour et d'oindre d'huile de coco les froides reliques de leur affection. Celles dont nous étions connus nous ont laissé quelquefois approcher de ce lieu consacré aux mânes. Émoé, il dort, nous disent-elles. Lorsqu'il ne reste plus que les squelettes, on les transporte dans la maison, et j'ignore combien de temps on les y conserve. Je sais seulement, parce que je l'ai vu, qu'alors un homme considéré dans la nation vient y exercer son ministère sacré, et que dans ces lugubres cérémonies, il porte des ornements assez recherchés. Nous avons fait sur sa religion beaucoup de questions à Aoutourou, et nous avons cru comprendre qu'en général, ses compatriotes sont fort superstitieux, que les prêtres ont chez eux la plus redoutable autorité, qu'indépendamment d'un être supérieur nommé Eritera, le roi du soleil ou de la lumière, être qu'ils ne représentent par aucune image matérielle, ils admettent plusieurs divinités, les unes bienfaisantes, les autres malfaisantes. Que le nom de ces divinités ou génies est Eatua, qu'ils attachent à chaque action importante de la vie un bon et un mauvais génie, lesquels y président et décident du succès ou du malheur. Ce que nous avons compris avec certitude, c'est que quand la lune présente un certain aspect, qu'ils nomment Malamatamal, lune en état de guerre, aspect qui ne nous a pas montré de caractère distinctif qui puisse nous servir à le définir, ils sacrifient des victimes humaines. De tous leurs usages, un de ceux qui me surprend le plus, c'est l'habitude qu'ils ont de saluer ceux qui éternuent, en leur disant « Evarwa Teatua », que le bon Eatua te réveille, ou bien que le mauvais Eatua ne t'endorme pas. Voilà des traces d'une origine commune avec les nations de l'ancien continent. Au reste, c'est surtout en traitant de la religion des peuples que le scepticisme est raisonnable, puisqu'il n'y a point de matière dans laquelle il soit plus facile de prendre la lueur pour l'évidence. La polygamie paraît générale chez eux, du moins parmi les principaux. Comme leur seule passion est l'amour, le grand nombre des femmes est le seul luxe des riches. Les enfants partagent également les soins du père et de la mère. Ce n'est pas l'usage à Tahiti que les hommes, uniquement occupés de la pêche et de la guerre, laissent au sexe le plus faible les travaux pénibles du ménage et de la culture. Ici, une douce oisiveté et le partage des femmes, et le soin de plaire leur plus sérieuse occupation. Je ne saurais assurer si le mariage est un engagement civil ou consacré par la religion, s'il est indissoluble ou sujet au divorce. Quoi qu'il en soit, les femmes doivent à leur mari une soumission entière. Elles laveraient dans leur sang une infidélité commise sans l'aveu de l'époux. Son consentement, il est vrai, n'est pas difficile à obtenir, et la jalousie est ici un sentiment si étranger que le mari est ordinairement le premier à presser sa femme de se livrer. Une fille n'éprouve à cet égard aucune gêne. Tout l'invite à suivre le penchant de son cœur ou la loi de ses sens, et les applaudissements publics honorent sa défaite. Il ne semble pas que le grand nombre d'amants passagers qu'elle peut avoir eu l'empêche de trouver ensuite un mari. Pourquoi donc résisterait-elle à l'influence du climat, à la séduction de l'exemple? L'air qu'on respire, les chants, la danse, presque toujours accompagnés de postures lascives, tout rappelle à chaque instant les douceurs de l'amour, tout crie de s'y livrer. Ils dansent au son d'une espèce de tambour, et lorsqu'ils chantent, ils accompagnent la voix avec une flûte très douce à 3 ou 4 trous, dans laquelle, comme nous l'avons déjà dit, ils soufflent avec le nez. Ils ont aussi une espèce de lutte qui est en même temps exercice et jeu. Cette habitude de vivre continuellement dans le plaisir donne aux Tahitiens un penchant marqué pour cette douce plaisanterie, fille du repos et de la joie. Ils en contractent aussi dans le caractère une légèreté dont nous étions tous les jours étonnés. Tout les frappe, rien ne les occupe. Au milieu des objets nouveaux que nous leur présentions, nous n'avons jamais réussi à fixer 2 minutes de suite l'attention d'aucun d'eux. Il semble que la moindre réflexion leur soit un travail insupportable et qu'il fuit encore plus les fatigues de l'esprit que celles du corps. Je ne les accuserai cependant pas de manquer d'intelligence. Leur adresse et leur industrie, dans le peu d'ouvrages nécessaires dont ne saurait les dispenser l'abondance du pays et la beauté du climat, démentiraient ce témoignage. On est étonné de l'art avec lequel sont faits les instruments pour la pêche. Leurs hameçons sont de nacre aussi délicatement travaillés que s'ils avaient les secours de nos outils. Leurs filets sont absolument semblables aux nôtres, et tissés avec du fil de pit. Nous avons admiré la charpente de leur vaste maison et la disposition des feuilles de latanier qui en font la couverture. Ils ont 2 espèces de pirogues. Les unes, petites et peu travaillées, sont faites d'un seul tronc d'arbre creusé. Les autres, beaucoup plus grandes, sont travaillées avec art. Un arbre creusé fait comme aux premières le fond de la pirogue depuis l'avant jusqu'aux 2/3 environ de sa longueur. Un second forme la partie de l'arrière qui est courbe et fort relevée, de sorte que l'extrémité de la poupe se trouve à 5 ou 6 pieds au-dessus de l'eau. Ces deux pièces sont assemblées bout à bout en arc de cercle et comme, pour assurer cet écart, ils n'ont pas le secours des clous, ils percent en plusieurs endroits l'extrémité des deux pièces et ils y passent des tresses de fil de coco dont ils font de fortes liures. Les côtés de leur pirogue sont relevés par deux bordages d'environ un pied de largeur, cousus sur le fond, l'un avec l'autre, par des liures semblables aux précédentes. Ils remplissent les coutures de fil de coco sans mettre aucun enduit sur le calfatage. Une planche, qui couvre l'avant de la pirogue et qui a 5 ou 6 pieds de saillie, l'empêche de se plonger entièrement dans l'eau lorsque la mer est grosse. Pour rendre ces légères barques moins sujettes à chavirer, ils mettent un balancier sur un des côtés. Ce n'est autre chose qu'une pièce de bois assez longue portée sur 2 traverses de 4 ou 5 pieds de long, dont l'autre bout est amarré sur la pirogue. Lorsqu'elle est à la voile, une planche s'étend en dehors de l'autre côté du balancier. Son usage est pour y amarrer un cordage qui soutient le mât et rendre la pirogue moins volage, en plaçant au bout de la planche un homme ou un poids. Leur industrie paraît davantage dans le moyen dont ils usent pour rendre ces bâtiments propres à les transporter aux îles voisines, avec lesquelles ils communiquent sans avoir dans cette navigation d'autres guides que les étoiles. Ils lient ensemble 2 grandes pirogues côte à côte, à 4 pieds environ de distance, par le moyen de quelques traverses fortement amarrées sur les deux bords. Par-dessus l'arrière de ces 2 bâtiments ainsi joints, ils posent un pavillon d'une charpente très légère, couvert par un toit de roseaux. Cette chambre les met à l'abri de la pluie et du soleil et leur fournit en même temps un lieu propre à tenir leurs provisions sèches. Ces 2 pirogues sont capables de contenir un grand nombre de personnes et ne risquent jamais de chavirer. Ce sont celles dont nous avons toujours vu les chefs se servir. Elles vont, ainsi que les pirogues simples, à la rame et à la voile. Les voiles sont composées de nattes étendues sur un carré de roseaux dont un des angles est arrondi. Les Tahitiens n'ont d'autre outil pour tous ces ouvrages qu'une herminette, dont le tranchant est fait avec une pierre noire très dure. Elle est absolument de la même forme que celle de nos charpentiers, et ils s'en servent avec beaucoup d'adresse. Ils emploient, pour percer les bois, des morceaux de coquilles fort aigus. La fabrique des étoffes singulières qui composent leurs vêtements n'est pas le moindre de leur art. Elles sont tissées avec l'écorce d'un arbuste que tous les habitants cultivent autour de leur maison. Un morceau de bois dur, équarri et rayé sur ses 4 faces par des traits de différentes grosseurs, leur sert à battre cette écorce sur une planche très unie. Ils y jettent un peu d'eau en la battant, et ils parviennent ainsi à former une étoffe très égale et très fine, de la nature du papier, mais beaucoup plus souple et moins sujette à être déchirée. Ils lui donnent une grande largeur, ils en ont de plusieurs sortes, plus ou moins épaisses, mais toutes fabriquées avec la même matière. J'ignore la méthode dont ils se servent pour l'éteindre. Je terminerai ce chapitre en me justifiant, car on m'oblige à me servir de ce terme, en me justifiant, dis-je, d'avoir profité de la bonne volonté d'Aoturu pour lui faire faire un voyage qu'assurément il ne croyait pas devoir être aussi long et en rendant compte des connaissances qu'il m'a données sur son pays pendant le séjour qu'il a fait avec moi. Le zèle de cet insulaire pour nous suivre n'a pas été équivoque. Dès les premiers jours de notre arrivée à Tahiti, il nous l'a manifesté de la manière la plus expressive, et sa nation parut applaudir à son projet. Forcé de parcourir une mer inconnue et certain de ne devoir désormais qu'à l'humanité des peuples que nous allions découvrir les secours et les rafraîchissements dont notre vie dépendait, il nous était essentiel d'avoir avec nous un homme d'une des îles les plus considérables de cette mer. Ne devions-nous pas présumer qu'il parlait la même langue que ses voisins, que ses mœurs étaient les mêmes, et que son crédit auprès d'eux serait décisif en notre faveur quand il détaillerait et notre conduite avec ses compatriotes et nos procédés à son égard? D'ailleurs, en supposant que notre patrie voulût profiter de l'union d'un peuple puissant situé au milieu des plus belles contrées de l'univers, quel gage pour cimenter l'alliance que l'éternelle obligation dont nous allions enchaîner ce peuple en lui renvoyant son concitoyen, bien traité par nous et enrichi de connaissances utiles qu'il leur porterait. Dieu veuille que le besoin et le zèle qui nous ont inspirés ne soient pas funestes au courageux Aoturu. Je n'ai épargné ni l'argent, ni les soins pour lui rendre son séjour à Paris agréable et utile. Il y est resté 11 mois, pendant lesquels il n'a témoigné aucun ennui. L'empressement pour le voir a été vif. Curiosité stérile qui n'a servi presque qu'à donner des idées fausses à ces hommes persifleurs par état qui ne sont jamais sortis de la capitale, qui n'approfondissent rien et qui, livrés à des erreurs de toute espèce, ne voient que d'après leurs préjugés et décident cependant avec sévérité et sans appel. Comment, par exemple, me disaient quelques-uns, dans le pays de cet homme on ne parle ni français, ni anglais, ni espagnol? Que pouvais-je répondre? Ce n'était pas toutefois l'étonnement d'une question pareille qui me rendait muet. J'y étais accoutumé, puisque je savais qu'à mon arrivée, plusieurs de ceux-mêmes qui passent pour instruits soutenaient que je n'avais pas fait le tour du monde, puisque je n'avais pas été en Chine. D'autres, Aristarque tranchant, prenaient et répandaient une fort mince idée du pauvre insulaire sur ce qu'après un séjour de 2 ans avec des Français, il parlait à peine quelques mots de la langue. « Ne voyons-nous pas tous les jours, disait-il, des Italiens, des Anglais, des Allemands, auxquels un séjour d'un an à Paris suffit pour apprendre le français ?» J'aurais pu répondre peut-être, avec quelque fondement, qu'indépendamment de l'obstacle physique que l'organe de cet insulaire apportait à ce qu'il pût se rendre notre langue familière, obstacle qui sera détaillé plus bas, cet homme avait au moins 30 ans, que jamais sa mémoire n'avait été exercée par aucune étude, ni son esprit assujetti à aucun travail, qu'à la vérité un Italien, un Anglais, un Allemand pouvaient en un an jargonner passablement le français, mais que ces étrangers avaient une grammaire pareille à la nôtre, des idées morales, physiques, sociales, les mêmes que les nôtres, et toutes exprimées par des mots dans leur langue, comme elles le sont dans la langue française. Qu'ainsi, ils n'avaient qu'une traduction à confier à leur mémoire exercée dès l'enfance. Le Tahitien, au contraire, n'ayant que le petit nombre d'idées relatives d'une part à la société la plus simple et la plus bornée, de l'autre à des besoins réduits au plus petit nombre possible, aurait eu à créer, pour ainsi dire, dans un esprit aussi paresseux que son corps, un monde d'idées premières, avant que de pouvoir parvenir à leur adapter les mots de notre langue qui les expriment. Voilà peut-être ce que j'aurais pu répondre. Mais ce détail demandait quelques minutes, et j'ai presque toujours remarqué qu'accablé de questions comme je l'étais, quand je me disposais à y satisfaire, les personnes qui m'en avaient honoré étaient déjà loin de moi. C'est qu'il est fort commun dans les capitales de trouver des gens qui questionnent, non en curieux qui veulent s'instruire, mais en juges qui s'apprêtent à prononcer. Alors, qu'ils entendent la réponse ou ne l'entendent pas, ils n'en prononcent pas moins. Cependant, quoique Aoutourou estropiât à peine quelques mots de notre langue, tous les jours il sortait seul. Il parcourait la ville, et jamais il ne s'est égaré. Souvent il faisait des emplettes, et presque jamais il n'a payé les choses au-delà de leur valeur. Le seul de nos spectacles qui lui plut était l'opéra, car il aimait passionnément la danse. Il connaissait parfaitement les jours de ce spectacle. Il y allait seul, payait à la porte comme tout le monde, et sa place favorite était dans les corridors. Parmi le grand nombre de personnes qui ont désiré le voir, il a toujours remarqué ceux qui lui ont fait du bien, et son cœur reconnaissant ne les oubliait pas. Il était particulièrement attaché à Madame la Duchesse de Choiseul, qu'il a comblée de bienfaits et surtout de marques d'intérêt et d'amitié auxquelles il était infiniment plus sensible qu'au présent. Aussi allait-il de lui-même voir cette généreuse bienfaitrice toutes les fois qu'il savait qu'elle était à Paris. Il en est parti au mois de mars 1770, et il a été s'embarquer à La Rochelle sur le navire Le Brisson, qui a dû le transporter à l'île de France. Il a été confié pendant cette traversée aux soins d'un négociant qui s'est embarqué sur le même bâtiment dont il est armateur en partie. Le ministère a ordonné au gouverneur et à l'intendant de l'île de France de renvoyer de là Aoutourou dans son île. J'ai donné un mémoire fort détaillé sur la route à faire pour s'y rendre, et 36 000 francs, c'est le tiers de mon bien, pour armer le navire destiné à cette navigation. Madame la Duchesse de Choiseul a porté l'humanité jusqu'à consacrer une somme d'argent pour transporter à Tahiti un grand nombre d'outils de nécessité première, des graines, des bestiaux, et le roi d'Espagne a daigné permettre que ce bâtiment, s'il était nécessaire, relâchât aux Philippines. J'ai reçu des nouvelles de l'arrivée d'Aoutourou à l'île de France, et je crois devoir insérer ici la copie d'une lettre de M. Poivre écrite à ce sujet à M. Bertin, ministre d'État. Extrait d'une lettre de M. Poivre, intendant des îles de France et de Bourbon, à M. Bertin, ministre d'État. Au Port-Louis, Île-de-France, ce 3 novembre 1770. Monseigneur, j'ai reçu la lettre que vous m'aviez fait l'honneur de m'écrire, en date du 15 mars dernier, au sujet de l'honnête indien Poutavéry. J'ai reconnu dans tout ce que vous me faites l'honneur de me dire de cet insulaire et des précautions à prendre pour le renvoyer convenablement dans sa patrie, toute la bonté de votre cœur dont j'avais tant de preuves certaines. J'avais déjà reçu ici Poutavéry en 1768. Je l'y avais accueilli à la ville et à la campagne. Pendant tout son séjour dans cette île, il avait eu le couvert chez moi, je lui ai rendu tous les services qui ont dépendu de moi, il est parti d'ici mon ami, et il revenait dans cette île plein de sentiments d'amitié et de reconnaissance pour son ami Polari, car c'est ainsi qu'il me nomme. Vous ne sauriez croire à quel point cet homme naturel porte la mémoire des bienfaits et le sentiment de la reconnaissance. Pendant toute la traversée, sachant qu'il revenait à l'île de France, il a toujours parlé à tous les officiers du vaisseau du plaisir qu'il aurait de revoir son ami Polari. Arrivé ici, on a voulu le conduire au gouvernement, il ne l'a pas voulu. Tout en mettant pied à terre, il a couru par le chemin le plus court, droit à ma maison. Il m'a fait toutes sortes de caresses à sa façon et m'a tout de suite raconté tous les petits services que je lui avais rendus. Quand il a été question de se mettre à table, il a aussitôt montré son ancienne place à côté de moi et a voulu la reprendre. Vous voyez que vous ne pouviez pas mieux vous adresser pour procurer à cet homme naturel les secours dont il aura besoin ici et le moyen de retourner commodément et convenablement dans sa patrie, l'île de Tahiti. Je serais bien fâché qu'un autre que moi eût une commission aussi délicieuse à remplir. Soyez assuré que je ferai pour Poutavéry tout ce que je ferai pour mon propre fils. Cet Indien m'a particulièrement intéressé depuis le moment que j'ai su son histoire, et son honnêteté naturelle m'a fortement attaché à lui. Aussi me regarde-t-il comme son père, et ma maison comme la sienne. Poutavéry est arrivé ici le 23 octobre en très bonne santé, fort aimé de tous ses compagnons de voyage, et très content d'eux tous. J'ai chargé M. de la Maletti, subrécarde du navire sur lequel il a passé, de le loger avec lui et d'en avoir soin, parce que malheureusement je n'ai point de logement dans la maison que j'occupe et je n'ai pour moi-même qu'une très petite pièce très incommode qui me sert de cabinet. Poutavéry n'étant arrivé ici qu'à la fin d'octobre, dans un moment où nous avions tous nos bâtiments dehors, je le garderai jusqu'à la mi-septembre de l'année prochaine, temps auquel je le renverrai dans son pays. Le capitaine, les officiers et le bâtiment destiné à ce voyage seront de mon choix. Je lui donnerai pour lui, pour sa famille et pour les chefs tahitiens des présents convenables. Je lui donnerai, outre les outils et instruments en fer de toute espèce, des grains à semer et surtout du riz, des bœufs et des vaches, des cabris, enfin tout ce qui me paraîtra, d'après ses rapports, devoir être utile aux bons tahitiens qui devront à la générosité française une partie de leur bien-être. Le bâtiment destiné pour Tahiti fera sa route par le sud et passera entre la Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi je ne veux le faire partir que vers l'équinoxe de septembre de l'année prochaine, afin que nos navigateurs, forcés peut-être par les vents de s'élever beaucoup dans le sud, jouissent de toute la belle saison qui, dans l'hémisphère austral, commence à la fin de septembre. Alors les nuits sont plus courtes et les mers plus belles. On m'a écrit depuis l'île de France une lettre datée du mois d'août 1771, dans laquelle on me mande qu'on y armait le bâtiment destiné à ramener Aotourou à Tahiti. Puisse-t-il revoir enfin ses compatriotes ? Je vais détailler ce que j'ai cru comprendre sur les mœurs de son pays dans mes conversations avec lui. J'ai déjà dit que les Tahitiens reconnaissent un être suprême qu'aucune image factice ne saurait représenter, et les divinités subalternes de deux métiers, comme dit Amiotte, représentées par des figures de bois. Il prit au lever et au coucher du soleil. Mais ils ont en détail un grand nombre de pratiques superstitieuses pour conjurer l'influence des mauvais génies. La comète, visible à Paris en 1769 et qu'Aotourou a fort bien remarqué, m'a donné lieu d'apprendre que les Tahitiens connaissent ces astres qui ne reparaissent, m'a-t-il dit, qu'après un grand nombre de lunes. Ils nomment les comètes Evetou et Ave, et n'attachent à leur apparition aucune idée sinistre. Il n'en est pas de même de ces espèces de météores qu'ici le peuple croit être des étoiles qui filent. Les Tahitiens, qui les nomment Tepao, les croient un génie malfaisant, Eatuatoa. Au reste, les gens instruits de cette nation, sans être astronomes, comme l'ont prétendu nos gazettes, ont une nomenclature des constellations des plus remarquables. Ils en connaissent le mouvement diurne, et ils s'en servent pour diriger leur route en pleine mer d'une île à l'autre. Dans cette navigation, quelquefois de plus de 300 lieues, ils perdent toute vue de terre. Leur boussole est le cours du soleil pendant le jour et la position des étoiles pendant les nuits, presque toujours belles entre les tropiques. Aotourou m'a parlé de plusieurs îles, les unes confédérées de Tahiti, les autres toujours en guerre avec elles. les îles amies sont Taimeo, Maorua, Aka, Umaitia et Tapuamasu. Les ennemies sont Papara, Ayatea, Otaha, Tumaroaa, Oopoa. Ces îles sont aussi grandes que Tahiti. L'île de Paré, fort abondante en perles, est tantôt son allié, tantôt son ennemi. Enuamotu et Tupai sont deux petites îles inhabitées, couvertes de fruits, de cochons, de volailles, abondantes en poissons et en tortues. Mais le peuple croit qu'elles sont la demeure des génies. C'est leur domaine, et malheur au bateau que le hasard ou la curiosité conduit à ces îles sacrées. Il en coûte la vie à presque tous ceux qui y abordent. Au reste, ces îles gisent à différentes distances de Tahiti. Le plus grand éloignement dont Aotourou m'ait parlé est à 15 jours de marche. C'est sans doute à peu près à cette distance qu'il supposait être notre patrie lorsqu'il s'est déterminé à nous suivre. J'ai dit plus haut que les habitants de Tahiti nous avaient paru vivre dans un bonheur digne d'envie. Nous les avions crus presque égaux entre eux, ou du moins jouissant d'une liberté qui n'était soumise qu'aux lois établies pour le bonheur de tous. Je me trompais. La distinction des rangs est fort marquée à Tahiti, et la disproportion cruelle. Les rois et les grands ont droit de vie ou de mort sur leurs esclaves et valets. Je serais même tenté de croire qu'ils ont aussi ce droit barbare sur les gens du peuple qu'ils nomment Tata et Inu, hommes vils. Toujours est-il sûr que c'est dans cette classe infortunée qu'on prend les victimes pour les sacrifices humains. La viande et le poisson sont réservés à la table des grands. Le peuple ne vit que de légumes et de fruits. Jusqu'à la manière de s'éclairer dans la nuit différencie les états, et l'espèce de bois qui brûle pour les gens considérables n'est pas la même que celle dont il est permis au peuple de se servir. Les rois seuls peuvent planter devant leur maison l'arbre que nous nommons le saule pleureur, ou l'arbre du grand seigneur. On sait qu'en courbant les branches de cet arbre et en les plantant en terre, on donne à son ombre la direction et l'étendue qu'on désire. À Tahiti, il est la salle à manger des rois. Les seigneurs ont des livrées pour leurs valets. Suivant que la qualité des maîtres est plus ou moins élevée, les valets portent plus ou moins haut la pièce d'étoffe dont ils se saignent. Cette ceinture prend immédiatement sous les bras au valet des chefs. Elle ne couvre que les reins aux valets de la dernière classe des nobles. Les heures ordinaires des repas sont lorsque le soleil passe au méridien et lorsqu'il est couché. Les hommes ne mangent point avec les femmes. Celles-ci seulement servent aux hommes les mets que les valets ont apprêtés. À Tahiti, on porte régulièrement le deuil qui se nomme Eeva. Toute la nation porte le deuil de ses rois. Le deuil des pères est fort long. Les femmes portent celui des maris, sans que ceux-ci leur rendent la pareille. Les marques de deuil sont de porter sur la tête une coiffure de plumes dont la couleur est consacrée à la mort, et de se couvrir le visage d'un voile. Quand les gens en deuil sortent de leur maison, ils sont précédés de plusieurs esclaves qui battent des castagnettes d'une certaine manière. Leur son lugubre avertit tout le monde de se ranger, soit qu'on respecte la douleur des gens en deuil, soit qu'on craigne leur approche comme sinistre et malencontreuse. Au reste, il en est à Tahiti comme partout ailleurs. On y abuse des usages les plus respectables. Aotourou m'a dit que cet attirail du deuil était favorable au rendez-vous, sans doute avec les femmes dont les maris sont peu complaisants. Cette claquette, dont le son respecté écarte tout le monde, ce voile qui cache le visage, assure aux amants le secret et l'impunité. Dans les maladies un peu graves, tous les proches parents se rassemblent chez le malade. Ils y mangent et y couchent tant que le danger subsiste. Chacun le soigne et le veille à son tour. Ils ont aussi l'usage de saigner, mais ce n'est ni au bras ni aux pieds. Un tawa, c'est-à-dire un médecin ou prêtre inférieur, frappe avec un bois tranchant sur le crâne du malade. Il ouvre par ce moyen la veine que nous nommons sagittale, et lorsqu'il en a coulé suffisamment de sang, il ceint la tête d'un bandeau qui assujettit l'ouverture. Le lendemain, il lave la plaie avec de l'eau. Voilà ce que j'ai appris sur les usages de ce pays intéressant, tant sur les lieux mêmes que par mes conversations avec Aotourou. En arrivant dans cette île, nous remarquâmes que quelques-uns des mots prononcés par les insulaires se trouvaient dans le vocabulaire inséré à la suite du voyage de Lemaire, sous le titre de « Vocabulaire des îles des Cocos ». Ces îles, en effet, selon l'estime de Lemaire et de Schouten, ne sauraient être fort éloignées de Tahiti. Peut-être font-elles partie de celles que m'a nommées Aotourou. La langue de Tahiti est douce, harmonieuse et facile à prononcer. Les mots n'en sont presque composés que de voyelles sans aspiration. On n'y rencontre point de syllabes muettes, sourdes ou nasales, ni cette quantité de consonnes et d'articulations qui rendent certaines langues si difficiles. Aussi, notre tahitien ne pouvait-il parvenir à prononcer le français. Les mêmes causes qui font accuser notre langue d'être peu musicale la rendaient inaccessible à ses organes. On eût plutôt réussi à lui faire prononcer l'espagnol ou l'italien. M. Pereire, célèbre par son talent d'enseigner à parler et bien articuler aux sourds et muets de naissance, a examiné attentivement et plusieurs fois Aoturu et a reconnu qu'il ne pouvait physiquement prononcer la plupart de nos consonnes, ni aucune de nos voyelles nasales. Au reste, la langue de cette île est assez abondante. J'en juge parce que, dans le cours du voyage, Aoturu mise en strophe cadencée tout ce qui l'a frappé. C'est une espèce de récitatif obligé qu'il improvisait. Voilà ses annales. Et il nous a paru que sa langue lui fournissait des expressions pour peindre une multitude d'objets, tous nouveaux pour lui. D'ailleurs, nous lui avons entendu chaque jour prononcer des mots que nous ne connaissions pas encore, et entre autres, déclamer une longue prière qu'il appelle la prière des rois, et de tous les mots qui la composent, je n'en sais pas 10. J'ai appris d'Aoturu qu'environ 8 mois avant notre arrivée sur l'île, un vaisseau anglais y avait abordé. C'est celui que commandait M. Wallis. Le même hasard qui nous a fait découvrir cette île y a conduit les Anglais pendant que nous étions à la rivière de la Plata. Ils y ont séjourné 1 mois, et à l'exception d'une attaque que leur ont faite les insulaires qui se flattaient d'enlever le vaisseau, tout s'est passé à l'amiable. Voilà, sans doute, d'où proviennent et la connaissance du fer que nous avons trouvé aux Tahitiens, et le nom d'Aouri qu'ils lui donnent, un nom assez semblable pour le son au mot anglais « iron », fer, qui se prononce « iron ». J'ignore maintenant si les Tahitiens, avec la connaissance du fer, doivent aussi aux Anglais celle des mots vénériens que nous y avons trouvés naturalisés, comme on le verra bientôt. Les Anglais ont fait depuis un second voyage à Tahiti, qu'ils nomment Otaïté. Ils y ont observé le passage de Vénus le 4 juin 1769, et leur séjour dans cette île a été de 3 mois. Comme ils ont déjà publié une relation de ce voyage, relation qu'on traduit actuellement en français pour la rendre publique ici, je n'entrerai point dans le détail de ce qu'ils disent sur cette île et ses habitants. Je me contenterai d'observer que c'est faussement qu'ils avancent que nous y sommes toujours restés avec pavillon espagnol. Nous n'avions aucune raison de cacher le nôtre. C'est avec tout aussi peu de fondement qu'ils nous accusent d'avoir porté aux malheureux Tahitiens la maladie que nous pourrions peut-être justement soupçonner de leur avoir été communiquée par l'équipage de M. Wallis. Les Anglais avaient emmené 2 insulaires qui sont morts en chemin. Tandis que nous étions entre les grandes Cyclades, quelques affaires m'avaient appelé à bord de l'Étoile, et j'eus l'occasion d'y vérifier un fait assez singulier. Depuis quelque temps, il courait un bruit dans les 2 navires que le domestique de M. de Commerson, nommé Barré, était une femme. Sa structure, le son de sa voix, son menton sans barbe, son attention scrupuleuse à ne jamais changer de linge ni faire ses nécessités devant qui que ce fût, plusieurs autres indices avaient fait naître et accrédité le soupçon. Cependant, comment reconnaître une femme dans cet infatigable Barré, botaniste déjà fort exercé, que nous ayons vu suivre son maître dans toutes ses herborisations, au milieu des neiges et sur les monts glacés du détroit de Magellan, et porter même, dans ses marches pénibles, les provisions de bouche, les armes et les cahiers de plantes, avec un courage et une force qui lui avaient mérité du naturaliste le surnom de sa bête de somme. Il fallait qu'une scène qui se passa à Tahiti changeât le soupçon en certitude. M. de Commerson y descendit pour herboriser. À peine Barré, qui le suivait avec les cahiers sous son bras, eut mis pied à terre, que les Tahitiens l'entourent, crient que c'est une femme et veulent lui faire les honneurs de l'île. Le chevalier de Bournon, qui était de garde à terre, fut obligé de venir à son secours et de l'escorter jusqu'au bateau. Depuis ce temps, il était assez difficile d'empêcher que les matelots n'alarmassent quelquefois sa pudeur. Quand je fus à bord de l'Étoile, Barré, les yeux baignés de larmes, m'avoua qu'elle était une fille. Elle me dit qu'à Rochefort, elle avait trompé son maître en se présentant à lui sous des habits d'homme au moment même de son embarquement, qu'elle avait déjà servi comme laquais un Genevois à Paris, que, née en Bourgogne et orpheline, la perte d'un procès l'avait réduite dans la misère et lui avait fait prendre le parti de déguiser son sexe. Qu'au reste, elle savait en s'embarquant qu'il s'agissait de faire le tour du monde et que ce voyage avait piqué sa curiosité. Elle sera la première, et je lui dois la justice qu'elle s'est toujours conduite à bord avec la plus scrupuleuse sagesse. Elle n'est ni laide ni jolie. Il n'a pas plus de 26 ou 27 ans. Il faut convenir que si les deux vaisseaux eussent fait naufrage sur quelque île déserte de ce vaste océan, la chance eût été fort singulière pour barrer.